Sidonie Bonnec sur France Bleu, Minute Papillon.
Et tout de suite, le destin extraordinaire de Doris Delevingne, le secret le mieux gardé de Winston Churchill, le Premier ministre britannique. Bonjour Stéphanie Désor.
Bonjour Sidonie.
Oh, quelle joie de vous accueillir dans Minute Papillon. J'attends vos livres, vos romans chaque année avec impatience. Et ça y est, le nouveau Désor est sorti. Vous êtes écrivain, journaliste, vous êtes critique littéraire aussi. Et vous êtes passionné pour cette femme incroyable, incroyablement libre, Doris Delevingne. En quelques mots, qu'est-ce qui vous a séduit chez cette sulfureuse? Même si les quelques mots et adjectifs que j'ai donnés dans ma question font sans doute partie de la réponse.
Ce qui m'a séduit, effectivement, c'est que c'est une fille qui est très libre. À cette époque, les années 30, qui me fascine, elle est belle, elle est glamour, elle ressemble à Greta Garbo.
Ouais.
Oh, c'est un doux mélange de Greta Garbo et de Lee Miller. Et c'est une fille qui fiche la pagaille partout où elle passe. Et ça, c'est fou ce que ça m'amuse.
Lee Miller, c'était une photographe, hein, c'est ça, c'est
Lee Miller, c'était une photographe, mais elles ont ce look à la Veronica Lake aussi, mais ça, c'est plus tard, c'est les années 50, des blondes très fines avec des grands yeux. Les lèvres très, très, toujours rouges et ce côté glamour élégant que j'aime tant.
Et ce que vous aimez aussi chez ce genre de femme et que j'adore aussi, Stéphanie Désor, c'est qu'elle a un but dans la vie, c'est être au sommet. Elle est extrêmement ambitieuse.
Elle est ambitieuse, elle veut être tout à fait au sommet, mais c'est une drôle de sorte d'ambition parce que en fait, elle veut être quelqu'un, elle veut être reconnue, c'est une ambition sociale. Elle veut être le toast de Londres. Alors c'est le toast de Londres.
C'est-à-dire le meilleur.
Le meilleur, l'élite, et elle y arrivera. Elle veut être celle qui reçoit, être une salonnière, celle chez qui tout le monde se presse. Alors ça peut paraître vain, mais en fait, pas du tout. C'est ce que nous voulons tous, finalement, être reconnus.
C'est vrai. Delevingne, Doris Delevingne, ça c'est un nom qui est porté par des célébrités actuelles,
oui,
il me semble,
alors,
aux États-Unis,
non ? En fait, ma chère Sidonie, oui. Je me suis entraînée. Sachez que l'on dit Delevingne. Et moi,
Delevingne.
J'étais comme vous, et je disais même Delevingne. Mais pas du tout, c'est
Delevingne.
Et qui porte ce nom ? Ce sont Cara et Poppy. Cara Delevingne, c'est quand même le mannequin de Dior, voyez-vous. Et donc, Delevingne, avec cette prononciation française, et croyez-moi, elle le revendique parce que la France, c'est l'aristocratie.
Elle est un peu scandaleuse aussi, cette Cara Delevingne. Elle est comédienne aussi.
Elle est tout ce que vous voulez. Elle est certes
atypique,
scandaleuse, atypique, bisexuelle, pansexuelle, je ne sais pas trop, je ne comprends plus, l'époque me dépasse. Mais en tout cas, elle ne laisse personne indifférent. Et cette chère Cara avait une grand-tante. Et sa grand-tante, eh bien, c'est ma Doris à moi.
Doris Delevingne, vous racontez son destin, Stéphanie Désor, dans votre nouveau roman Doris, le secret de Churchill. C'est aux éditions Albin Michel. Et l'on comprend à mi-mot qu'elle aurait aussi, dans le titre déjà, croqué le Premier ministre britannique, quand même une sacrée prise, un homme dont on a toujours clamé la plus grande fidélité. On va le raconter, bien sûr, dans un instant, mais je laisse un peu de suspense quand même. Quand et où est née Doris ?
Doris est née en 1900 dans une banlieue de Londres, Beckenheim. Son père avait une mercerie et travaillait beaucoup avec la France,
oui.
À Calais notamment, où l'on fait des dentelles. Et donc c'était une petite bourgeoisie, mais la mère venait d'une famille très pauvre. Et ça, l'indigence, c'est quelque chose qui a toujours fait peur à Doris. Elle a vu sa mère, il y avait une bonne dans la famille, et la mère de Doris n'était pas habituée à cela, ça l'a gênée. Et Doris s'est toujours dit, moi, je serai tout en haut. Moi, j'aurai des domestiques et je ne serai pas gênée d'avoir des domestiques.
Rapidement, Doris Delevingne a des amours. Elle passe l'adolescence dans un pensionnat et elle va rencontrer un capitaine d'infanterie. Elle a 16 ans. Hein.
Oui, elle a 16 ans. Elle rencontre ce capitaine d'infanterie. Il faut savoir qu'il y a quand même, nous sommes en plein dans la Première Guerre mondiale à l'époque, 1916. Il y a des bombes qui pleuvent et Doris veut perdre sa virginité et découvrir l'amour. Et le fameux capitaine, ce cher Gordon va lui apprendre tout et même le secret de Cléopâtre.
C'est quoi le secret de Cléopâtre ?
Oh mon Dieu, mais enfin, je ne vais pas vous raconter cela
d'accord.
Une antenne.
Il est question d'une pratique sexuelle assez...
Certainement.
Ah, c'est pas la fellation, non ?
Je ne rentrerai pas dans ce genre
de détails.
Ah oui, mais moi,
mon boulot, c'est d'avoir
sur une
réponses.
Antenne publique. Je suis absolument désolée. D'accord. Mais en tout cas...
Cherchez sur Internet ou dans les bonnes librairies ou surtout lisez le roman de Stéphanie Désor. Elle va après rencontrer une femme, cette fois une chanteuse, qui va lui apprendre à se comporter dans le monde, mais aussi lui apporter de l'amour.
Oui, bien sûr. Oh ben, vous savez, Doris n'est pas farouche. Hein. Elle aime les hommes, elle aime les femmes, peu importe. Et en fait, Gertie Lawrence, qui est une chanteuse, va lui apprendre à se servir des hommes. Elle lui dit, mais mon Dieu, mais tu es belle, tu es magnifique, mais apprends à te servir des hommes. Et en plus, tu as ce sex appeal. Le sex appeal, c'est un truc c'est extraordinaire, c'est la sensualité. Doris va apprendre à lever un sourcil, et en levant un sourcil, tous les hommes vont tomber raides. Vous rendez-vous compte la chance qu'elle a ?
Quelle chance ! Elles vont se balader ensemble dans les quartiers les plus branchés de Londres, où à l'époque on écoutait ça. Imaginez Doris se baladant, séduisant les hommes, les femmes, en écoutant du Cole Porter, Night and Day. Et puis en 1920, elle va tomber folle amoureuse d'un joueur de polo qui va beaucoup la gâter.
Ah, Lady Sandford va la gâter, la combler, lui offrir une voiture, un appartement, des chaussures qu'elle achète par 250, voyez-vous. Elle est comme ça,
trop.
Doris.
Hein. Elle a du mal à en ranger 4, mais
Et elle apprend donc à se servir des hommes, et elle apprend la grande vie. Elle est reçue partout. Alors, elle est une cocotte, elle est une femme entretenue.
C'est une courtisane, on dit aussi.
C'est une
ouais.
courtisane, une grande horizontale. Et elle adore ça, elle sait y faire. Et Lady Sandford, ce garçon est comme très très amusant, c'est lui qui servira de modèle à Scott Fitzgerald pour brosser Tom Buchanan dans Gatsby.
Ah, dis donc, pas mal d'anecdotes. Doris qui change de lit comme de tenue, ça c'est vous qui l'écrivez,
ah oui.
Stéphanie Desor, jusqu'à la rencontre en 1928 avec un lord qui en impose.
Ah oui, Lord Castle Ross, alors lui, Valentine à l'anglaise, est un garçon qui est une espèce de Falstaff. Il est énorme, il est tonitruant, il a le rire grave, il a un esprit très très fin. Il est journaliste, il raconte les ragots, il se cache derrière un pseudo qui est The Londoner's Log, et il raconte les choses les pires sur tous les aristos de Londres. Et il tombe complètement fou de Doris.
Doris qui va beaucoup le tromper, avec qui ?
Ah mais Doris va le tromper avec tout le monde. Doris veut se faire épouser, tout d'un coup elle devient Lady Castle Ross. Et sauf que Doris n'a pas compris que le mariage était synonyme de fidélité, qui l'a compris d'ailleurs ? On ne sait pas, n'est-ce pas ? Et donc elle le trompe à tour de bras, elle le trompe avec Tom Mitford, le frère des fameuses sœurs, elle le trompe avec Randolph Churchill.
Le fils de Churchill.
Hein, en 1932, elle a une liaison. Alors, elle a juste un problème, elle trouve qu'il sent un peu trop l'huile de castor parce qu'il s'en tartine les cheveux. Mais il est charmant, Randolph, il est beau, il parle beaucoup, mais elle le trouve pas assez fin.
Et il y a aussi Cecil Beaton, qui est un photographe homosexuel.
Alors, Cecil Beaton est homosexuel, et à l'époque, c'est très mal vu, l'homosexualité. C'est même passible de prison. Et Cecil Beaton a envie de la jouer un peu masculine, donc il arrête de mettre des pantalons un peu trop serrés et de se comporter le petit doigt en l'air, et il apprend à être un mec. Et donc, quand il voit Doris, il se laisse sauter dessus. Mais alors, il n'aime pas ça, quand même. Alors, elle essaye de le noyer sous des fleurs, vous savez, sous des tubéreuses. Elle remplit la chambre de jasmin, c'est à la tête qui tourne. Alors il a un petit peu de mal au début, et elle lui dit « Mon chéri, pense à ta sœur. Tu te souviens de ta sœur quand elle s'est mariée ? Tu en étais fou, pense à Baba. » Et donc, tout à coup, eh bien, il devient plein de ferveur, et il se met à crier « Dorizine, Dorizine !» Et derrière la porte, il y a son amant qui écoute tout ce qui se passe.
Doris de Levine, scandaleuse, femme sensuelle et libre qui se joue des codes de la société. Mais alors comment elle est devenue le secret le mieux gardé de Winston Churchill, le premier ministre britannique? Le récit dans un instant, juste après Jacques et Thomas Dutronc, l'opportuniste sur France Bleu.
Minute Papillon sur France Bleu, jusqu'à 15h.
Vous découvrez le destin d'une courtisane, d'une femme libre qui a grandi dans un milieu populaire du sud de Londres au début du XXe siècle et qui n'avait qu'un but, être une femme du monde, vivre fort. Doris de Levine, qui n'avait qu'une idée en tête, allons-y, tombons amoureux, comme le chantait à la même époque Ella Fitzgerald.
Let's do it, let's fall in love. Romantic sponges, they say, do it. Oysters down in Oyster Bay, do it.
Et ce destin de scandaleuse, c'est l'écrivain, journaliste, critique littéraire Stéphanie Desor qui nous le raconte. Femme mariée, elle a été Doris, la maîtresse du fils de Winston Churchill, mais il sentait un peu le castor, c'est ça, parce qu'il avait trop de gel.
Il mettait de l'huile de castor, vous savez, cette espèce de chose.
Ah oui, de gomina, là.
Absolument, pour se graisser les cheveux, elle l'appelait Fuzzy Wheezy.
Fuzzy Wheezy. Mais apparemment, le fils ne lui a pas suffi, parce qu'elle va devenir l'amante de Winston Churchill, le père, donc premier ministre britannique, en 1933, où est-ce qu'elle débarque, Doris ?
Alors là, je vais m'attirer les foudres de tous les biographes, mais peu importe, Churchill débarque en 1933 sur la Côte d'Azur au château de l'Horizon.
C'est la retraite ?
C'est pour Churchill ?
Oui.
Non, pas du tout.
Non,
Churchill, nous sommes en 33, il a 58 ans. Il a été, n'oublions pas, chancelier de l'échiquier jusqu'en 29, au gouvernement jusqu'en 29. En 1931, il n'est pas dans le nouveau gouvernement formé par Ramsay MacDonald. Et il le crie, vous me voyez, écarté, abandonné. Il est tout seul au château de l'Horizon, il est là, perdu. N'oubliez pas, Churchill est un seigneur de guerre. Il n'est heureux que dans l'action, il n'est heureux que quand que face au bal. Et là, il est tout seul. Et donc, quoi ? Elle débarque, elle,
il
Doris.
Il a pas de femme, Winston ?
Alors, bien sûr, il y a Clémentine, il arrive avec Clémentine et sa fille Marie, mais soudain, on apprend que Doris arrive. Or, Clémentine ne peut pas rester s'il y a cette gourgandine, celle-là même qui a fait scandale avec son propre fils. Et quand elle apprend que Doris arrive, Clémentine part avec sa fille sous le bras, la petite Sarah. Et Churchill reste, il va peindre beaucoup et il va adorer peindre Doris. Il y a des tableaux de Doris dans des poses extrêmement lascives. Et mieux, il y a des photos. On voit Doris allongée, on voit Winston à côté qui la place. Il y a une vraie sensualité qui transparaît des photos et des tableaux. Et oui, il semblerait qu'il y ait une liaison. Cette année-là, certains historiens ont mené de nombreuses enquêtes. Le secrétaire particulier de Churchill, lui-même, Jock Colville, l'a révélé en 1985 sur une cassette qui est bien gardée dans les archives churchilliennes. Oui, il y a une liaison, oui, j'y crois.
Et des lettres aussi, non ?
Il y a eu des lettres que l'on a retrouvé. Churchill avait des assistants littéraires. Vous vous doutez qu'il ne tapait pas à la machine. Il dictait ses mémoires à notamment un garçon qui s'appelait Denis Kelly. Et il s'avère qu'en 1958, Churchill est déjà assez fatigué à l'époque. Il meurt en 65. Et il avait demandé à Denis Kelly de faire naître le cosmos parmi le chaos. Donc Denis Kelly s'est précipité dans ses papiers et il a trouvé des lettres. Et ces lettres, il les a remises à Clémentine qu'il détestait. Et Clémentine est devenue blême. Et à cet instant-là, il y avait Jock Colville, secrétaire de Churchill, qui était là, qui a assisté à toute cette scène. Et c'est ce qu'il va restituer 2 ans avant de mourir aux Churchilliens qui gardent la légende, si j'ose dire, vierge.
Donc on imagine des lettres que Doris et Churchill se seraient échangées.
Alors ce sont des lettres d'amour. C'est ce qu'a dit Denis Kelly, c'est ce qu'a répété Jock Colville, au Churchillien gardien de la mémoire de Churchill, il l'a dit. Et ces lettres ont existé. Il semblerait qu'elles soient aux archives en ce moment et personne ne peut les voir ni y accéder. Mais il y a une cassette. Et j'ai eu beaucoup de chance. J'ai fait de nombreuses recherches. J'ai suivi le travail de 2 historiens. Et je suis persuadée qu'effectivement, écoutez, en 33, sur la Côte d'Azur, vous êtes tout seul, d'accord ? Votre femme n'est pas là, vous êtes esselé, abandonné, comme il le dit, à 58 ans. Et
vous
qu'est-ce qui débarque ?
Une femme sensuelle à souhait qui a le secret de Cléopâtre.
Absolument, elle est perchée sur ses talons hauts, elle porte... Attendez, on est en 33, elle a 33 ans, elle porte des talons hauts, ses jambes sont immenses et elle se balade en mini-short. Pourquoi résisterait-il naturellement qu'elle rentre dans son lit ?
Et ces tableaux, Stéphanie Desor, où l'on voit Doris de Levine qui est peinte donc par Winston Churchill, est-ce que vous avez pu les consulter ? Est-ce qu'on peut les voir quelque part ?
Alors, il y a un très beau livre qui est sorti aux éditions Albin Michel qui s'appelle « Churchill peint la Côte d'Azur ». Et la plupart des... Il y a 4 tableaux de Doris que l'on peut retrouver dans ce livre. Alors, sur les 4 tableaux de Doris, il y en a un qui a disparu, qui a été pris par un Allemand lors du débarquement sur les plages de la Côte d'Azur. Mais les 3 autres, on ne sait pas où ils sont. Je me pose la question, peut-être chez la famille de Levigne, il faut leur demander.
C'est un nouveau coup de foudre pour Doris de Levigne en 1938, pour une femme cette fois.
Ah ben écoutez, pourquoi pas ?
Bien sûr.
Pourquoi pas ? Elle est américaine, elle est riche et comble de tout. Elle va lui offrir un magnifique palais à Venise. Et le palais Venier, mais vos auditeurs le connaissent. Aujourd'hui, c'est le musée Guggenheim. Vous voyez ce palais vénitien ?
Au bord de l'eau.
Qui n'a qu'un étage. En fait, qui n'a même pas d'étage, qui est juste un rez-de-chaussée. Et Doris va faire de ce palais de conte de fées un endroit extraordinaire et elle va recevoir le monde entier à l'échelle internationale.
Mais c'est qui cette amante merveilleuse et très riche qui fait des beaux cadeaux ?
Margot, c'est une fille. Elle s'enthousiasme pour Doris. Elle aime les femmes. Elle s'est mariée parce qu'il fallait se marier. Elle a épousé un garçon qui se suicidera. Et Margot tombe folle amoureuse de Doris et lui passe tous ses caprices.
Est-ce que Doris est vraiment une femme amoureuse ou une femme un peu profiteuse ?
Profiteuse, je ne sais pas. Doris aime la vie. Doris est libre. Doris est libre. Elle prend tout ce qui passe. D'accord. Une femme tombe folle amoureuse d'elle et lui offre un palais à Venise.
Mais enfin, on dirait jamais non, Stéphanie.
Mais jamais. Elle est libre à une époque où il y avait quand même, on était encore un peu corsetés. Enfin, dans les années folles, il y a quelque chose d'extraordinaire. Les femmes explosent. Voyez-vous, c'est le règne des garçons. Les femmes explosent et ensuite
les
jupes raccourcissent
et les shorts aussi. Et ça, c'est génial.
Ah ben Doris est rigolote comme tout. Elle passe son temps en short, en mini short avec des talons hauts. Même aujourd'hui, on n'ose pas le faire.
C'est tellement sexy pourtant. En septembre 1940, le conflit mondial éclate. Que fait Doris ? Doris de Levigne n'aurait jamais dû fuir aux États-Unis. Vous allez découvrir pourquoi dans un instant sur France Bleu. Juste après, Edwyn Collins, A Girl Like You.
France Bleu, Minute Papillon.
C'est l'histoire d'une femme amoureuse, ambitieuse, une fleur du mal aussi qui veut se hisser au sommet de la société anglaise. Elle aime les hommes, les femmes, elle aime le sexe, elle est libre et disait toujours le lit d'une Anglaise est son royaume. Stéphanie Desor, elle vient d'où cette expression ?
Ça, c'est Doris. Ce n'est pas moi. Ça, c'est Doris. Ce qui est très amusant, c'est que quand elle rencontre Gertie Lawrence, Gertie lui apprend...
La chanteuse.
Gertie lui apprend à se comporter avec les hommes. Et elle lui fait toute une liste de choses à faire et de choses à ne pas faire. Alors, en numéro un, n'avoue jamais que tu trompes. Surtout, n'oublie jamais d'embrasser la poitrine d'un homme. C'est l'endroit le plus sensible. Et la lit d'une Anglaise et son royaume, tu y fais ce que tu veux. Et ça, Doris le mettra tout à fait à profit.
Doris de Levigne qui est au sommet de sa gloire, qui a réussi selon ses critères, elle a réussi sa vie et pourtant elle va chuter. On est en septembre 1940, le conflit mondial éclate. Que fait Doris ?
Mais Doris fuit. Doris fuit aux États-Unis. Elle part en se disant que Margot, sa maîtresse, va l'entretenir, sauf que Margot est partie, donc elle va sauter sur un héritier et elle se fait entretenir. Mais c'est la guerre, ainsi que vous le dites, et les Américains vont bientôt entrer en guerre et Doris va se retrouver toute seule, sans plus personne pour payer pour elle. Et que va-t-elle faire ? Ben, il va falloir qu'elle rentre. Sauf que ce qu'elle n'avait pas compris, ce qu'elle n'avait pas mesuré, c'est que les Anglais sont extrêmement chauvins. Les Anglais sont restés chez eux. Souvenez-vous, George VI et sa femme dans les ruines de Londres, en train d'aider les gens. Tous les Anglais sont restés, ils ont subi le blitz. Doris est partie et quand elle va arriver à revenir, grâce à l'aide de Churchill...
Elle l'aide, donc officiellement il l'aide ou officieusement ?
Officieusement, ouais. Mais elle ne peut plus rester aux États-Unis, elle n'a plus de quoi vivre. Donc elle se dit qu'elle va rentrer, qu'elle va retrouver ses biens. Elle est toujours propriétaire d'une maison à Londres, mais elle n'a pas mesuré l'ampleur du désastre, l'ampleur de ce qui l'attendait. C'est que tout le monde va la rejeter. Il y a les Anglais... On détestait tous ceux qui sont partis.
Ce sont les traîtres, en fait.
Elle passe pour une traîtresse, absolument. Alors, elle revient, elle descend au Dorchester, et là, elle trouve des missives sous sa porte, des pamphlets qui ont été écrits où elle est vraiment dénigrée. Tout le monde lui tourne le dos, elle croise le diplomate Cheap Shannon qui ne la regarde pas, elle se rue vers les gens, mais toutes les portes se ferment. Or, n'oubliez pas, ce que voulait Doris, c'est être au sommet, c'est être une salonnière, c'est être reconnue, c'est recevoir, être reçue partout. Et là, toutes les portes se ferment. C'est la traîtresse. Elle a quitté l'Angleterre. Elle les a abandonnées à leur sort.
Quand elle revient, elle a quel âge en fait ?
Elle a 42 ans.
Elle va mourir combien de temps après ?
très peu de temps après, dans des circonstances assez mystérieuses. Elle revoit les fantômes de son passé. Il semblerait qu'elle se suicide ou qu'elle ait été suicidée. Toujours est-il que Doris ne supporte pas la solitude, Doris ne supporte pas d'être mise de côté et sa fin sera dramatique. Elle est seule. Elle n'a plus personne, elle n'a plus d'amoureux, sa famille a disparu, son frère se bat en France, sa belle-sœur est partie se réfugier chez ses parents, Doris a une réputation épouvantable, elle n'a nulle part où aller, elle est enfermée dans sa chambre du Dorchester et pire que tout, quand Doris était aux États-Unis, elle avait besoin d'argent pour survivre, elle a mis ses bijoux au clou. Et quand elle est arrivée en France, elle a envoyé un télégramme à l'usurier. Or, cela, demander de l'argent à un Américain en temps de guerre passe aussi pour une trahison. Et les services secrets débarquent et lui interdisent de quitter le pays et lui disent que de toute façon, ses bijoux sont saisis. Elle est seule, elle est pauvre, tout le monde lui tourne le dos. Oui, elle a 42 ans, mais que lui reste-t-il ? Rien. Même son mari Valentine, Valentin Castle-Ross, cet homme qui l'a vraiment aimé, même lui va lui tourner le dos.
Et Margot Hoffman, Margot Hoffman,
c'était une liaison. Celui qui aimait vraiment Doris, et je pense que c'était l'homme de sa vie, c'était son mari, c'était Valentin Castle-Ross. Il vient quand même la chercher à la gare et elle lui dit « nous allons nous marier à nouveau ». Et il lui dit oui, sauf qu'elle n'avait pas prévu qu'il y avait une autre garce qui allait mettre la main sur Valentin.
Quel destin extraordinaire, vous racontez brillamment. Stéphanie Desor, Doris, le secret de Churchill. C'est votre nouveau roman aux éditions Albin Michel. Merci pour ce voyage.
Merci Sidonie.
Minute Papillon, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez nous savourer et savourer bien d'autres invités sur francebleu.fr. Je vous dis à demain, 14h. Vous allez découvrir une histoire incroyable, l'affaire Caillot, et aussi l'histoire de la littérature, rien que ça. Allez, bon après-midi à vous. Vous retrouvez C'est déjà demain. C'est déjà tout de suite.